Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu, texte de la liturgie catholique pour le 17e dimanche.
Le règne des cieux est semblable à un trésor caché dans le champ. Quelqu'un qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va, vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le règne des cieux est encore semblable à quelqu'un qui fait du commerce et cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en va vendre tout ce qu'il a et l'acheter. Et encore, le règne des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui rassemble de toute espèce. Quand il est rempli, il le remonte sur le rivage, il s'assoit et ramasse les beaux dans des casiers, mais les pourris, il les rejette. Ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Les messagers célestes sortiront et sépareront les mauvais du milieu des justes. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ?
Ils disent oui. Lui leur dit :
C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du règne des cieux est semblable à quelqu'un qui est maître de maison et qui fait sortir de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà toutes sortes d'images pour décrire le règne de Dieu. Peuvent-elles nous rejoindre malgré les siècles qui nous séparent de Jésus?
Alors ce dimanche nous fait lire la fin du chapitre 13, ce chapitre qui a rassemblé 7 paraboles sur le règne. Les premières paraboles, celles de l'ivraie et du blé, du grain de moutarde et du levain, donnaient une explication des échecs de la mission de Jésus. Jusqu'à la fin des temps, les bons et les mauvais cohabiteront sur cette terre, car, contrairement à l'attente de certains prophètes, et notamment de Jean le Baptiste, la séparation des justes et des pécheurs n'interviendra pas au cours de l'histoire. On ne peut pas faire le tri pour séparer les bons des mauvais, pas plus qu'on ne se peut séparer le blé de l'ivraie. Et la raison en est sans doute que le bien et le mal sont présents dans chaque cœur humain. Alors les dernières paraboles se situent dans une ligne semblable, mais elles vont développer d'autres aspects du règne de Dieu. Alors rappelons d'abord ce que signifie l'expression « règne des cieux ». L'expression « des cieux » ne veut pas dire que ce règne se situerait seulement dans l'au-delà après notre vie terrestre. Les Juifs utilisaient l'expression « des cieux » pour dire de Dieu, parce qu'on évitait de nommer Dieu par respect pour le nom sacré. Depuis plusieurs dimanches, Jésus nous enseigne sur ce règne de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas une expression que les chrétiens utilisent souvent de nos jours. Peut-être parce que cette expression ne rejoint pas notre expérience de vie la plus quotidienne. Et Jésus ne donne pas d'ailleurs vraiment une définition du règne. Sans doute parce que cela devait être clair pour ses auditeurs. Le règne, cela évoquait l'alliance que les tribus juives avaient faite avec Dieu au temps de Moïse. Dieu est le seul roi d'Israël, et sa règle de vie, les 10 grands préceptes, est la règle et la charte de son règne. Comme tout au long de son histoire, Israël a été occupé par les puissances voisines, ce règne de Dieu ne semblait pas se réaliser vraiment. La perte de la liberté était vue, pour beaucoup de juifs religieux, comme une conséquence des fautes du peuple. Si Dieu avait abandonné Israël, c'était en raison de son péché. Et l'espoir de la réalisation du règne, eh bien, elle pouvait se traduire de bien des manières. Pour certains, réaliser le règne divin impliquait d'en chasser tous les malfaisants. Les Romains, mais aussi les Juifs, qui n'étaient pas de bons Juifs. Jésus, on l'a vu, refuse cette vision. Pour lui, le règne se réalise déjà dans chaque cœur qui se libère. Et il va illustrer cela par des images concrètes qui montrent comment on peut vivre avec Dieu, comment on peut entrer dans la sphère divine, dans la communion avec Dieu, entrer dans le règne des cieux.
Le règne de Dieu est semblable à quelqu'un qui trouve un trésor, à quelqu'un qui achète une perle.
Eh bien, ces exemples sont pris dans la vie quotidienne de l'époque. En effet, une invasion étrangère était alors un danger toujours présent, et quant au brigandage, eh bien, les pillards étaient nombreux et la police inexistante. Alors certains propriétaires cachaient leurs magots, leurs économies, dans leur propre terrain. S'ils devaient s'exiler, ils espéraient ainsi les retrouver à leur retour, mais un retour qui parfois n'avait pas lieu. Alors il arrivait que le locataire de ce terrain fasse la découverte du trésor à l'occasion, par exemple, d'un labour. Il était alors tenté d'acheter le terrain à n'importe quel prix pour devenir légitimement propriétaire du trésor qui y était caché. Et quant aux perles, eh bien, elles étaient très à la mode dans l'Empire romain. On les pêchait notamment dans la mer Rouge. Et certaines qui orlaient le cou des souveraines valaient, paraît-il, de véritables fortunes. Alors ces deux exemples situent le chercheur du règne. Il cherche quelque chose, d'une part, qu'il ne possède pas, et d'autre part, cela lui coûtera tout son avoir pour se le procurer. Au chapitre 6 de Matthieu, Jésus a déjà parlé du trésor de notre vie.
Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Alors, des trésors dans le ciel, là encore, l'expression ne veut pas dire que ce trésor ne sera trouvé qu'après la mort. Ce trésor dans le ciel est un trésor qui est en Dieu, qui vient de Dieu, qui est de qualité divine, et il nous est proposé ici et maintenant.
Mais quels sont ces trésors qui viennent de Dieu? Qu'est-ce qui peut vraiment combler notre cœur?
Pour Jésus, le cœur humain ne peut pas être comblé par des trésors qui ne sont pas au vrai niveau de sa soif spirituelle. Qu'est-ce qui peut donner un sens plénier à notre existence? Eh bien, nous qui vivons dans un monde de consommation où la télévision matraque notre esprit en nous présentant des objets matériels, est-ce que vraiment l'on peut appeler cela le bonheur? Ceux qui possèdent de tous ces objets savent qu'ils ne rendent pas forcément heureux, et ceux qui ne les possèdent pas risquent d'en rêver et d'être toujours insatisfaits et malheureux de ne pas les posséder. C'est vrai que notre monde a soif de pain, de paix, de justice, de bonheur, mais toutes ces soifs ne sont-elles pas des substituts d'une soif plus essentielle et plus vitale? La soif d'être aimé et d'aimer d'un amour pur, vrai. Et cet amour ne trouve sa source qu'en Dieu. Dans la tradition de la Bible, eh bien, le bonheur avait d'abord été compris, justement, comme la prospérité, des bonnes récoltes, un troupeau en santé, un troupeau qui se multiplie, et une famille nombreuse. Mais peu à peu, au cours des siècles, le bonheur a été perçu comme se trouvant davantage dans la sagesse. Et cette sagesse est de Dieu que nous pouvons l'apprendre. Elle est contenue dans la Torah, telle que Dieu nous l'a révélée par Moïse et les prophètes. Cette sagesse est d'ailleurs souvent appelée un trésor, comme dans plusieurs passages des proverbes que nous allons lire.
Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor, si, prêtant une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton cœur au discernement, si tu fais appel à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu trouveras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré le discernement. Car sa possession vaut mieux que possession d'argent, et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, rien de ce qu'on peut désirer ne l'égale. Mais peut-on véritablement atteindre cette sagesse de la Torah? N'est-elle pas au-dessus de nos forces?
Oui, en effet, que ce que peuvent espérer ceux que la vie a empêchés de connaître cet enseignement de Dieu, cette sagesse de Dieu qui est dans la Torah? Car les gens pauvres, du temps de Jésus, n'étaient pas toujours capables de suivre les cours de la synagogue où l'on étudiait cet enseignement divin. Et c'était la même chose pour des gens qui étaient marginalisés, soit à cause de leur maladie, les lépreux par exemple, soit en raison de leur profession qui les mettait en contact avec des païens comme les collecteurs d'impôts. Et pour qui alors ces gens, soit les malades ou ces collecteurs d'impôts, ne pouvaient pas aller à la synagogue? Alors ceux-là, est-ce qu'ils vont pouvoir appliquer les 613 préceptes qui forment la règle de vie? Comment vont-ils pouvoir trouver le bonheur tel que Dieu le propose? Alors que s'il y a une expression qui colle vraiment à la personne de Jésus, c'est bien celle-là, « Heureux les pauvres ». Les béatitudes sont la sagesse du règne de Dieu tel que Jésus le comprend et le proclame. Elles sont l'expression forte de son enseignement d'ailleurs à qui on l'a donné le nom d'évangile qui veut dire un message de bonheur. Or ce trésor de joie, Jésus le propose aux marginalisés du bonheur, de ce bonheur qu'on peut appeler un bonheur mondain. L'auditoire de Jésus était constitué de malheureux et de besogneux, voire de marginaux. Et c'est à eux qu'il va promettre qu'un chemin de bonheur est possible, même dans la pauvreté, même dans la souffrance. Écoutons comment un moine, Amédée Allier, illustre le message de l'Évangile.
Heureux êtes-vous, même vous les malheureux. Heureux êtes-vous tel que vous êtes, là où vous êtes, en votre vie réelle et besogneuse, à condition que vous ne soyez pas obsédés par vos privations, mais disponibles à la gratuité du message de Dieu. Jésus invite à une aventure exigeante et réaliste, car les béatitudes sont à la fois un don à accueillir et une tâche à accomplir. Jésus nous annonce même que la mort ouvre au bonheur suprême, la communion parfaite dans l'amour. Cette communion interpersonnelle dans l'amour est notre bonheur dès ici-bas, et elle sera notre bonheur éternel, car Dieu est communion, et il est le seul réel qui soit éternel.
Oui, quelles que soient tes conditions matérielles, dit Jésus, sache que la sagesse de Dieu te conduit vers le bonheur, un bonheur qui a pour nom communion, communion avec Dieu et communion avec tes proches. Voilà la vérité première selon Jésus. Le bonheur n'existe que dans la communion fraternelle, et celle-ci est possible pour tous. Bien plus, le pauvre a pour Jésus une certaine priorité, car la richesse peut faire croire que des biens matériels peuvent combler notre cœur. Parfois, est-ce qu'il faut dire souvent, la richesse fermera le cœur et le rendra égoïste, elle empêchera alors de choisir le vrai bonheur qui conduit, le vrai trésor qui conduit à ce bonheur que les mythes et la rouille ne peuvent pas nous enlever. Il y a un épisode de l'Évangile qui illustre bien cela et qui est celui du jeune homme riche.
Et voici qu'un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Oui, pour Jésus, le bonheur est accessible aux pauvres, à l'humble et aux petits. Parce que le premier pas dans cette communion fraternelle n'est pas la volonté d'aimer l'autre, ce qui est souvent très difficile à ceux qui n'ont pas été aimés. Ce premier pas, c'est l'ouverture de son cœur à l'amour de l'autre. L'accueil de l'amour donné précède toujours l'amour que l'on donne. Il faut d'abord se laisser aimer pour savoir aimer. Et Jésus propose son amour à tous les petits et les marginaux. À ceux qui sont privés d'amour, Jésus ne demande pas d'abord d'aimer, mais de se laisser aimer. Si le règne de Dieu s'est approché, c'est parce qu'il y a, sur notre terre, Jésus, un être humain comme nous, dont le cœur est rempli d'amour pour les mal-aimés. René Latourelle traduit ainsi ce message de Jésus de Nazareth.
La présence du Christ dans le monde apparaît ainsi comme une plénitude d'amour. Le Christ voit en chacun de nous la possibilité d'un amour à naître, d'un être nouveau à engendrer, à jamais libre et libéré, d'un fils ou d'une fille à introduire dans la vie trinitaire. Si Dieu est amour, jamais l'amour de Dieu n'a été plus semblable à cet amour. Jamais il ne l'a évoqué de façon plus saisissante. Dans le règne du moi égoïste, le Christ apparaît comme l'amour pur, ardent, fidèle, donné, livré jusqu'au sacrifice de sa vie pour le salut de tous. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. L'amour crucifié, c'est la seule définition de Dieu. Dans le Christ, nous découvrons l'existence d'un amour absolu, aimant l'homme en lui-même et pour lui-même, sans l'ombre d'une répulsion, et la possibilité d'un dialogue et d'une communion avec cet amour. Nous n'avons jamais été autant aimés que par l'amour.
Jésus peut donc affirmer que le règne de l'amour est proche par sa présence. Mais alors, qu'adviendra-t-il de ce message de bonheur, de cet évangile, de ce règne de l'amour après sa mort? Déjà de son vivant, Jésus implique ses disciples pour qu'ils traduisent aussi cette présence de l'amour. « Vous serez miséricordieux, leur dit-il, comme votre Père est miséricordieux. » Et l'on peut se rappeler que Dominique disait à ses frères « Soyez des sanctuaires de miséricorde. » Après Pâques, il appartient maintenant à la communauté des disciples de Jésus de continuer la présence de cet amour, et de cet amour notamment pour tous les marginaux, les isolés, les désespérés. « Je vous ai choisi et destiné à porter du fruit, ce que je vous demande, vous aimez les uns les autres. Comme toi, Père, tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. » Et cette mission n'est pas seulement celle de quelques spécialistes. Elle est celle de tout chrétien. Et André va nous rappeler un petit fait de vie.
Pierre vit seul dans son appartement. Il est célibataire et n'a plus de famille. Malade, il a peu de contacts. Voilà qu'à l'occasion de la fête des Pères, sa voisine vient le voir avec sa petite fille. Elle lui apporte un bon repas et une carte de fête. Pierre et ses voisines auront vécu le partage et le bonheur qui l'accompagne.
Eh bien, ce trésor qui donne le bonheur, c'est donc Jésus lui-même, puisqu'il est la source de cet amour qui apporte le bonheur. Écoutons comment le bibliste Jérémias traduit cela.
Lorsqu'une grande joie, une joie qui dépasse toute mesure, saisit un homme, elle le soulève, l'empoigne jusqu'au plus profond de lui-même et terrasse son bon sens. Tout pâlit devant une telle découverte. Aucun prix n'est trop élevé. Il va alors de soi d'abandonner spontanément ce qu'on a de plus précieux.
Et oui, et cela vaut pour ceux qui ont vécu avec Jésus en Palestine, comme pour tous ceux qui se mettront à la suite de Jésus après Pâques. L'apôtre Paul a souvent exprimé comment la découverte de Jésus aura été pour lui le total bonheur. Écoutons ce qu'il écrit aux Philippiens.
Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts.
Si les paraboles du trésor et de la perle insistent sur la joie comme étant le mobile qui met en route le chercheur, elles nous disent aussi qu'il y a un prix à payer pour trouver ce bonheur. Il faut vendre tout pour acheter le trésor ou la perle de grand prix. Les sportifs savent qu'il leur faut sacrifier bien des choses, bon repas, détente, etc., pour avoir un entraînement intensif. Mais ils le font avec enthousiasme pour gagner des concours ou des victoires. En fait, quand on a vraiment trouvé le bonheur, le vrai bonheur, il semble que tout le reste n'a plus d'importance. On sait bien ce qui arrive quand un jeune tombe en amour, il est capable de sacrifier bien des choses pour celle qu'il aime, pour celui qu'elle aime. L'évangile de Thomas, lui, parle d'un pêcheur qui trouve un gros poisson et qui rejette alors tous les petits qu'il a d'abord pêchés.
Que veut dire de tout sacrifier à la connaissance de Jésus?
Oh, cela sans doute veut dire bien des choses, mais on pourrait dire que c'est d'abord peut-être choisir de se donner du temps avec Jésus. Se donner du temps pour le connaître dans son intimité, dans sa relation avec le Père. Pour cela, il faut lire l'Évangile chaque jour en priant, c'est-à-dire en étant en communion aimante avec Jésus. Le poète Saint-Exupéry disait que ce qui faisait la rose unique, c'était le temps que le petit prince avait passé avec elle.
On ne connaît que ce que l'on apprivoise. Les humains n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Si tu m'apprivoises, tu seras pour moi unique au monde.
Jésus ne sera unique pour moi que si je prends le temps de tisser des liens avec lui. Je ne pourrai dire ce qu'affirmait l'apôtre Paul, pour moi vivre c'est le Christ, que si je choisis de donner du temps à l'amitié avec Jésus. Il y a quelques années, un journaliste français avait été pris en otage au Liban. Pendant sa détention, il avait eu le temps de découvrir l'Évangile. Et alors, il disait, je réfléchissais sur ma vie passée, passée à manger, à boire, à acheter, à ne parler que de futilité. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment cela la vie? Et après avoir pris le temps de lire l'Évangile, peu à peu il va connaître Jésus. Et plus tard il dira, en trouvant le Christ, j'ai trouvé un idéal de vie, et maintenant je vis vraiment le bonheur, en essayant de nourrir mes journées de petits trucs, de trucs tout cons, disait-il, comme de pardonner.
Le règne de Dieu est semblable à un filet qu'on jette dans la mer.
On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Alors Jésus nous dit qu'il en sera ainsi, mais à la fin du monde. Jésus vient transmettre un message de lumière et d'amour. Pourquoi certains le trouvent-ils? Pourquoi certains se ferment-ils à sa parole? Pourquoi certains ne vivent-ils que dans l'indifférence, dans la révolte, dans le crime? Jésus est très conscient que bien des gens seront se préoccuper davantage des bonheurs mondains, des affaires du monde, et qu'ils seront indifférents au trésor du bonheur divin. Et la sévérité de la finale, cette finale qui emprunte à l'imagerie biblique sur le sort des mauvais à la fin des temps, cette sévérité est peut-être l'expression de la tristesse de Jésus, à la pensée de tous ceux qui seront passés à côté de la joie que Dieu propose à l'être humain. On pense ici à la remarque de Jésus peu avant sa passion lorsqu'il approche de Jérusalem et qu'il pleure sur elle.
Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix. Mais hélas, cela a été caché à tes yeux.
Jésus ne redit-il pas cela? De tous ces lieux, de tous les lieux du monde où sévissent la guerre et ses crimineux, l'exploitation de l'humain par son semblable dans le travail, les violences au sein même de la famille. Le message de bonheur proposé par Jésus n'est jamais déconnecté du monde réel, de l'humanité telle qu'elle est, une humanité à la fois merveilleuse et cruelle. Sa ville natale, Nazareth, n'aura pas su davantage reconnaître en lui le guide envoyé par Dieu pour tracer le chemin du bonheur. C'est ce qu'indique la conclusion du chapitre 13 sur les paraboles du règne.
Or, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Étant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants dans leur synagogue. Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et là, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur non-confiance.
Oui, tout amour qu'il soit, Jésus ne peut forcer personne à vivre selon la règle de vie de Dieu. À la question qu'il nous pose, « Avez-vous compris tout cela ?» Demandons la grâce de répondre, à l'instar de l'apôtre Pierre. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le chemin de l'amour et du bonheur. Alors, comme toi, et à ta suite, avec toi, nous voulons partager le bonheur de la communion avec notre prochain.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous ces renseignements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.